Le domaine des possibles, une émission proposée par Christian Faure.
Amis auditeurs du domaine des possibles, mais aussi habitants de Montpellier et de ses environs immédiats, bonjour. Ce qui va suivre vous intéresse, je crois, au plus haut point. Nous voyons dans nos villes ou métropoles, en général, et dans notre bonne ville de Montpellier en particulier, se construire à une vitesse effrayante des immeubles d'habitation, des immeubles administratifs, des gares ou des stades à l'utilité douteuse. Mais nous voyons très peu s'édifier de parcs ou de jardins, qu'ils soient potagers ou partagés, de rapports ou d'agréments. Et ce constat ne peut que nous affoler dans la perspective des effondrements à venir. Je sais, je me répète beaucoup sur les effondrements et je me répéterai certainement encore. Dans ce monde donc où l'espace vert et respirable se restreint de jour en jour, il existe des gens de plus en plus nombreux qui luttent pour préserver, sauver, voire inventer de nouveaux espaces de respiration humaine et végétale. Leur intention de lutter contre la bétonisation des sols, la disparition des espaces agricoles ou l'augmentation des îlots de chaleur est sincère, déterminée et quotidienne. Le collectif Ceinture Verte, qui agit, comme son nom l'indique, sur la ceinture de Montpellier, la ceinture verte de Montpellier, représente une partie de ces irréductibles. Et ce sont ces représentants que nous recevons aujourd'hui pour parler de leurs inquiétudes, de leurs actions, de leurs projets. Bonjour Jean-Paul, et bonjour, j'ai oublié ton prénom.
Bernard.
Bonjour Bernard. Donc bonjour à tous les deux, merci d'être venus, d'avoir répondu à cette invitation. Et j'aimerais dans un premier temps que vous nous expliquiez un peu comment est né ce collectif, qui en a eu envie, est-ce que ce sont vous qui... Enfin, est-ce que c'est un truc qui s'est imposé comme une obligation parce que affolé par la bétonisation de la ville, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui était dans vos esprits depuis longtemps par souci écologique, je ne sais pas. Nous faire un petit peu l'historique de votre collectif et sur quoi il s'est construit.
Alors ce collectif, à l'origine... C'est à Saint-Jean-de-Védas que notre association Saint-Jean Environnement, présente sur place, s'est préoccupée de la progression de la ville, des futurs barreaux autoroutiers qui vont se construire, le futur contournement ouest. Et on s'est aperçu qu'on avait des territoires d'une beauté et d'un paysage urbain, au milieu de l'urbanisation, des paysages à sauvegarder. Et on a créé un périmètre, on a défini un périmètre de l'ordre de 600 hectares qui va du Mas de Douguier à Montpellier, à l'ouest de Montpellier, jusqu'à La Vérune et Juvignac, qui traversent Saint-Jean-de-Védas. Et ce périmètre, on a demandé à ce qu'il soit sanctuarisé sous forme d'un PAEN. On reparlera du PAEN plus tard.
Tout à fait. Ouais.
Et puis, on a fait une réunion publique en 2017, et d'autres associations ont découvert qu'eux aussi avaient des territoires à défendre.
D'accord.
Des espaces verts, des espaces de nature, des espaces agricoles à défendre. Et l'idée est venue de se regrouper et de défendre ensemble tous ces espaces encore privilégiés. Donc on a créé ce qui s'appelle le collectif Ceinture Verte. Alors moi je suis maintenant co-président de Saint-Jean Environnement. Jean-Paul fait aussi partie de l'association Saint-Jean Environnement, mais il présentera aussi l'autre association dont il s'occupe. Et ensuite on a regroupé un certain nombre d'associations. On est aujourd'hui, au bout de deux ans, un peu plus de deux ans, plus d'une quinzaine d'associations.
D'accord.
Qui couvre pratiquement
vous arrivez à faire cette fameuse ceinture.
Et le périmètre du cœur de métropole, puisque ça couvre à la fois la ville de Montpellier et les communes limitrophes. Alors, toutes ces associations sont des associations qui étaient déjà dans le domaine de l'environnement pour la qualité de
cet environnement,
de vie,
bien sûr.
Les espaces naturels, etc. Donc, déjà, tous ces gens-là, toutes ces associations sont engagées dans ce combat. Et aujourd'hui, leur but commun, c'est l'idée de sauvegarder un maximum de ces espaces périurbains, de l'urbanisation galopante. On est dans une situation où la ville progresse à une vitesse colossale, sans trop de discernement sur ce qui est à protéger et ce qui ne l'est pas. Donc voilà un petit peu le but. Alors, ce constat qu'on en fait, c'est un constat alarmant, ce qui s'appelle l'étalement urbain. C'est quand même un problème énorme. Une ville qui croît d'une façon exponentielle, c'est-à-dire que c'est une véritable progression géométrique, comme on dit. Et cet étalement consomme aujourd'hui de l'ordre de 110 hectares par an de terres agricoles ou naturelles. Et ce qui représente l'équivalent de la surface d'une commune tous les 10 ans qui passe sous le béton ou le bitume.
Tout à fait.
Il serait trop long de d'énumérer toutes les acs.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et les projets autoroutiers, les projets d'infrastructures routières qui consomment ces 110 hectares par an. Les terres agricoles sont toujours considérées par les investisseurs et par les urbanistes actuellement comme des espaces vides.
Et inutiles.
dont on peut disposer pour faire des programmes immobiliers, etc.
Tout à fait.
Et on peut constater aussi que depuis 20 ans que ce phénomène dure, les consignes de l'État, les consignes, c'était de stopper l'étalement urbain, mais que ça n'a pas fait grand-chose, et que, par ailleurs, on n'a jamais fait quoi que ce soit pour retenir les agriculteurs de la déprise de leurs parcelles, les viticulteurs aussi, et que... Ce qu'on considérait encore dans le SCOT de 2006, le SCOT c'est le schéma de cohérence territoriale, comme des armatures naturelles et agricoles autour des bourgs, et ben cette armature se disparaît progressivement.
On fait appel à deux grands problèmes là, c'est-à-dire que d'une part, la ville de Montpellier se développe, la démographie montpelliéraine se développe à une vitesse exponentielle, parce que Montpellier est une ville attractive, parce que je ne sais pas pourquoi, mais effectivement il y a énormément de gens, donc j'imagine que ça induit des constructions. Et après vous parlez des viticulteurs, et le problème des viticulteurs, ou des agriculteurs en général, c'est que quand on voit ce que coûte une vigne, et je sais de quoi je parle puisque j'étais vigneron dans une autre vie, ce que coûte une vigne et ce que coûte un terrain à bâtir, on comprend que des fois le viticulteur soit un petit peu attiré par le prix du terrain qui va devenir constructible. Donc est-ce que c'est facile de lutter contre ce genre de problème, c'est-à-dire contre la spéculation foncière en fait et contre le développement démographique, et quels sont les moyens qu'on a de lutter contre ça? Oui, si vous voulez pas.
Oui, je pense qu'il faut absolument qu'on arrête de rendre attractif une ville qui l'est déjà naturellement.
Oui.
Il faut qu'on arrête de dire venez sur notre territoire, c'est un lieu extraordinaire, on le sait et tout le monde le sait. Je trouve que il faut au contraire aider les régions les plus difficiles à qui retiennent le plus difficilement leur...
Oui, celles qui ont tendance à se vider.
Absolument. Donc, mais c'est au niveau national, évidemment, que législatif qu'il faudrait agir. Mais je pense qu'il faudrait introduire des pénalités pour les villes trop attractives, à savoir un malus, et accorder des bonus sur les constructions. À savoir, si on fait un nouveau stade sur Montpellier, il faut qu'il soit taxé d'un malus pour qu'un nouveau stade soit créé dans le nord de la France, dans les régions les plus déshéritées, pour que... Voilà. Bon.
Mais ce malus, on l'appliquerait... ce serait une espèce d'impôt qu'on imposerait au stade.
Exemple. Non, mais ça, c'est dans mes rêves. Donc c'est juste pour illustrer un petit peu la difficulté de l'urbanisme actuel, c'est que on ne sait pas maîtriser les mouvements de population et il faut arrêter de rendre attractif notre ville en particulier.
Mais comment faire pour arrêter de rendre notre ville attractive?
Eh oui.
C'est pas simple. Hein. On peut pas cacher le soleil, on peut pas... c'est pas évident. Le fait qu'on ait une ville universitaire, ensoleillée, proche de la mer...
Non, mais c'est aussi sur le plan législatif qu'il faut que la nation se pose le problème. Ouais. Sinon, on peut pas continuer comme ça.
Non, surtout qu'on voit très bien comment ça se passe dans les régions qui sont en train de se vider, où c'est dramatique au niveau des services, des médecins, c'est bien affreux. Il y a des régions qui sont complètement déshéritées par ça. Bon, enfin bref, on va pas refaire ni l'État, ni la planète aujourd'hui.
L'autre constat que l'on peut faire, et qui est flagrant, qui est une faute politique, c'est de considérer l'agriculture comme une activité dérisoire et subalterne.
Oui.
Et ça, c'est cette prise de conscience est fondamentale, c'est que l'agriculture a une valeur économique importante et stratégique.
Stratégique, surtout au niveau alimentaire.
Et on verra aussi que les espaces verts sont stratégiques aussi sur le plan des retombées sur le, la santé humaine, etc.
Tout à fait, tout à fait. Alors moi, allez-y, si vous avez quelque chose à ajouter, allez-y, allez-y.
Alors, le problème aussi, c'est de préserver des sols. Quand on bétonne ou qu'on bitume, on détruit des sols vivants et on détruit une partie des services qu'ils peuvent rendre en termes de rétention de l'eau, de restitution de l'hygrométrie, de vie très riche dans le sous-sol, dans le sol, et aussi la filtration de l'eau.
Le drainage, etc.
Et aussi l'absorption de certains polluants. Donc ça, c'est aussi un problème de la ressource en eau.
Effectivement, on enterre, lorsqu'on bitume ou lorsqu'on construit, on enterre des couches de terreau qu'il a fallu des milliers d'années pour créer. Le nombre d'années pour créer un centimètre
d'humus, c'est terrible.
C'est
très important. On va revenir au collectif un petit peu pour savoir comment il fonctionne, parce que vous avez, il y a une quinzaine d'associations en fait dans le collectif, c'est ça. Et donc, est-ce que vous arrivez à vous coordonner? Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'on est tous sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'il y a des conflits au sein
on
du
est
collectif?
Tous assez militants et très engagés dans cette action.
Ouais.
La difficulté, c'est plutôt parce que c'est tous des volontaires, c'est des bénévoles.
Des bénévoles, hein, donc, oui, bien sûr.
Quand il y a des gros dossiers à monter, ça demande beaucoup d'efforts.
Il faut avoir des bonnes volontés pour le faire. Ouais.
Mais ce collectif n'arrête pas de grossir.
Ouais.
On est contacté assez régulièrement par de nouvelles associations qui veulent se joindre à nous. On constitue, si on regarde le réseau relationnel que ça représente, c'est peut-être des milliers de personnes avec les adhérents de chaque association, plus leur réseau relationnel et les sympathisants.
D'accord.
Donc on constitue une force qui est en plein essor.
Oui,
et une prise de conscience de ce que nous défendons, c'est important.
C'est un besoin qui est de plus en plus grand sur la ville.
Et en tout cas, il n'y a aucune difficulté à travailler ensemble. On se retrouve tous sur les thématiques sur lesquelles on travaille. Et il faudra bien sûr dire au cours de cet entretien-là quel est le moyen pour l'auditeur de retrouver tous nos dossiers.
Oui, on en parlera en fin d'émission. On donnera les contacts qui sont nécessaires. Je repensais au problème de bétonisation, de construction. Donc, et je me dis, est-ce qu'il y a... J'imagine que ça existe. Quand on construit une certaine surface d'immeubles, de bâtiments, il doit y avoir quand même une règle qui impose qu'en contrepartie, on crée de l'espace vert ou qu'on plante des arbres. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Est-ce que ce n'est pas assez contraignant?
C'est pratiquement inexistant.
C'est inexistant.
Dans les PLU, c'est le zonage, avec sur chaque zone, des 14 règles.
Ouais.
Mais on positionne les bâtiments par rapport aux clôtures, par rapport à la route, etc.
Ouais.
Mais on impose peut-être un certain pourcentage de terres naturelles, non imperméabilisées.
Ouais.
Ça ne va pas plus loin. On n'impose jamais la plantation d'arbres, éventuellement dans certaines ZAC où il y a quand même un règlement intérieur de la ZAC.
Ouais.
Mais d'une façon générale, le PLU, les arbres n'existent pas. Sauf les espaces boisés classés, et sont en général relativement modestes et peu nombreux.
D'accord. Ah oui, moi j'étais persuadé qu'il y avait une contrainte. Oui, vas-y.
Non, il n'y a pas de compensation prévue lorsqu'on construit. Il y en a lorsqu'on fait une nouvelle autoroute, par exemple. Il y a des compensations, il faut compenser.
Sur la construction de bâtiments, ça n'existe pas.
Non,
d'accord.
Ça n'existe pas.
Et vous vouliez ajouter
je voulais rajouter un point sur la protection des arbres.
Oui.
La seule loi qui existe et qui n'est pas appliquée, malheureusement, ou très très peu, c'est la protection des arbres en alignement. Si on a un alignement d'arbres, il y a une loi qui les protège. Malheureusement, et on a eu l'exemple à Saint-Jean-de-Védas, la mairie avec la métropole se sont permis d'éliminer des platanes en alignement le long de la rue des Roudères, par exemple, ou au cœur même du village de Saint-Jean-de-Védas. Donc ça, c'est vraiment
c'est tout à fait dramatique,
des protections qu'il faut absolument mettre en œuvre.
Alors, puisque vous parlez d'arbres, vous avez choisi un petit morceau de musique qui est une forme de clin d'œil et qui s'appelle « Auprès de mon arbre » de Georges Brassens.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligot, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futées. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie. J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais me brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant, d'avec ma femme j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez. Au milieu de la figure, je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne, Valencelle-là. Qui bien sûr laissait beaucoup, trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit faire un tour sur la grande ours. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des hallebardes. Je m'en bats l'œil, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes. Y a 107 ans qui dit mieux, j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Nous sommes aujourd'hui donc avec le collectif Ceinture Verte, représenté par Bernard et Jean-Paul, nos invités. Et donc on a déjà un petit peu abordé le principe de fonctionnement et les visées de ce collectif. Et j'aimerais maintenant que vous nous parliez un petit peu de la valeur de ces sols, justement, de la mise en valeur, de leur valeur symbolique, etc.
Oui, le sol et les sols nourriciers, en quelque sorte, sont une valeur fondamentale. C'est une des ressources, l'ultime ressource. Qui nous permettrait de survivre, de vivre, tout simplement.
Tout à fait, oui. Mmh.
Donc c'est quand même, par rapport aux ressources minérales ou fossiles, le pétrole et autres, c'est encore le sol qui est notre dernière ressource.
Et, on aura plus besoin de manger que de rouler en voiture, je pense. Oui.
On parle maintenant du sol, et entre autres dans les villes et autour des villes, comme un bien commun.
Oui.
L'intérêt général doit passer avant l'intérêt des propriétaires. C'est une révolution dans la façon de penser. Et
c'est une révolution des esprits, oui.
Juridique. Mmh,
tout à fait.
Bon, pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais ça vient. Mmh. À un moment donné, le propriétaire n'a pas le droit d'exiger que son terrain devienne constructible. Ce n'est pas à lui qu'appartient cette décision. Et pourtant, c'est aujourd'hui, avec l'aide des promoteurs, etc., que l'on consomme progressivement tout ce qui peut être attrapé par les promoteurs.
Mmh. Et c'est dramatique.
Voilà. On va revenir maintenant au réel besoin des citadins, parce que c'est les citadins qui nous concernent. La végétation et les espaces naturels agricole ou naturelle, la végétation dans son ensemble, apporte des bienfaits considérables aux citadins. Mm-hmm. Déjà, sur le plan santé, alors, il y a la santé physique. On remarque que les arbres, c'est démontré, permettent une baisse de la tension artérielle et du rythme cardiaque.
Ouais.
Au Japon, on fait des bains de forêt
à
titre prophylactique pour détendre les gens. Et le stress urbain est un peu compensé par la présence de végétation et des arbres en particulier. On observe, un scientifique l'a dit récemment, il y a plus de maladies mentales en ville qu'en milieu rural.
Ça, je veux bien le croire.
Et d'une façon très importante. Ouais, ouais. Il y a 55% de plus de gens en ville qui sont atteints par le stress et les contraintes. Et ils ont besoin, les citadins, de décompresser, si on peut appeler ça comme ça, en ayant la possibilité de se promener.
D'aller faire un tour dans le parc, bien sûr.
L'idée dans notre collectif, c'est de créer des espaces végétalisés, naturels ou agricoles, à 10 minutes à pied de tous les citadins.
Ouais.
Cette distance de 10 minutes à pied est importante.
Bien sûr, oui. Je veux bien le croire.
Alors, dans les autres intérêts, les retombées des grands espaces, c'est à la fois d'avoir des îlots de fraîcheur,
pour
compenser les pics de chaleur, ça sera de plus en plus d'actualité, et retombées un peu secondaires, de moins dépenser en climatiseurs dans les villes.
Ça serait pas mal.
C'est une petite retombée secondaire. Les citadins ont besoin aussi de s'approvisionner en denrées alimentaires.
Oui, c'est surtout ce que j'allais vous dire. Oui. Ça, c'est important.
C'est d'une importance aussi au titre de la dépendance des citadins vis-à-vis des circuits alimentaires.
Oui.
Et si on peut cultiver en ville les espaces ouverts, c'est autant de gagner sur les circuits d'approvisionnement, la distance de transport des denrées alimentaires et la dépendance de la cité par rapport aux approvisionnements. C'est une petite contribution, mais elle est importante. Et aussi, cette contribution est sur le plan éducatif. Les enfants, et maintenant aussi les parents, n'ont plus la notion de la nature, de la biodiversité qui peut l'entourer.
Absolument.
Et c'est un problème de plus en plus important à partir du moment où beaucoup de jeunes sont plongés dans un univers virtuel.
Mm-hmm.
Plus de contact avec la nature.
Oui. Ça fait plus la différence entre un coq et une poule.
Ce que les citadins ont besoin.
Oui.
Alors maintenant, on peut venir aux propositions.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Maintenant, c'est très bien, on a fait un constat. Et maintenant, il faudrait que vous nous expliquiez un petit peu quels sont vos moyens d'action et comment vous pensez influer sur le cours des choses.
Alors, l'idée, c'est à un moment donné de dire stop à la progression urbaine. On sanctuarise de grands espaces.
Mmh.
Et petit à petit, ces espaces seront aménagés.
Oui.
Par ce qu'on appellerait une ingénierie du territoire, à grande échelle, parce que ce n'est pas des petits parcs qu'on veut faire, c'est des grands parcs.
Mmh.
Et au total, on vise à sanctuariser 5000 hectares.
Sur l'ensemble de la ceinture montpelliéraine.
Sur l'ensemble du cœur de la métropole, c'est-à-dire Montpellier et ses communes voisines.
Première couronne.
Première couronne.
La deuxième couronne est déjà bien pourvue en espaces verts.
Oui, j'imagine.
Qui sont encore moins menacés qu'aujourd'hui.
Oui.
Mais dans les communes les plus proches, et même à Montpellier, restent encore des espaces à sanctuariser.
Je veux bien le croire.
Et, cette sanctuarisation peut se faire par un dispositif du Code de l'urbanisme qui a été créé en 2005, qui s'appelle le PEN, ce qui veut dire préservation de périmètre agricole et naturel périurbain. Donc c'est un dispositif tout à fait adapté et qui a été conçu pour justement freiner l'étalement urbain et la consommation de terres agricoles.
Je me permets de donner le sigle exact, parce que tu l'as dit un petit peu vite, c'est donc le PAEN.
Oui,
PAEN. Et c'est un dispositif qui existe déjà dans de nombreuses villes en France. Donc
ce n'est pas un dispositif obligatoire en fait, c'est un dispositif que la ville choisit ou ne choisit pas.
Ou non.
D'accord. Et malheureusement, justement, malheureusement, le problème qui se pose à la métropole ici, c'est qu'on est en conflit ou en opposition, en tout cas, avec l'urbanisme géré par la métropole, avec les bureaux d'urbanisme, qui, eux, ne jusqu'à présent, n'ont pas été sensibles à cette mise en œuvre de ce type de dispositif et qui propose à la place, par exemple, dernièrement, des AFA. AFA sont des associations foncières agricoles.
Oui.
Qui, en fait, font appel aux bonnes volontés des propriétaires.
Mmh.
Et c'est tellement loin des dispositifs qui sont nécessaires chez nous, que d'ailleurs ces AFA ont été récemment abandonnés ou du moins mis en suspens par la métropole, par M. Sorel qui l'a décidé. Pourquoi ? Parce que c'était très mal accueilli par les propriétaires. Et donc, en fait, il faut vraiment prendre conscience que l'avenir de notre métropole ne doit pas dépendre de la bonne volonté des propriétaires, mais il faut vraiment que notre collectivité prenne en charge cette responsabilité, comme d'autres l'ont faite en France, que ce soit à Bordeaux, à Strasbourg, à Saint-Étienne, etc. Donc, il faut vraiment créer une structure protectrice pour tous ces espaces.
Mais ça veut dire qu'il faudrait que, alors c'est exactement le terme que vous avez employé tout à l'heure, ça veut dire qu'il faudrait sanctuariser ces espaces agricoles ou verts, peu importe comment on les appelle. Mais les sanctuariser, ça veut dire absolument empêcher qu'il y ait de la spéculation possible dessus, etc. C'est certainement très difficile à mettre en place au regard.
Si difficile que ça.
Ah bon?
Puisque,
mais quelle gueule vont faire les agriculteurs quand on va leur dire ça, c'est ça.
La question est justement,
voilà.
Ces PAEN ont la propriété d'être définitifs, c'est-à-dire qu'on sanctuarise, sauf exigence fondamentale et qui passe en conseil,
conseil
d'État pour être accepté s'il y a retrait par rapport au périmètre défini.
Ouais.
Par contre, une extension est possible sous forme relativement simple.
D'accord.
Ça peut être étendu, mais jamais retourner à l'urbanisation sans une contrainte
forte.
Cette sanctuarisation permet l'accueil d'agriculteurs qui ont des investissements à faire sur le long terme. Si on plante des arbres, ce n'est pas pour 5 ans, 10 ans, c'est peut-être pour 30 ans ou 40 ans.
Mais il faudrait les accueillir sur des sols qu'on décréterait communs, alors, à ce moment-là.
Non, pas forcément.
Ça veut dire qu'ils pourraient acquérir les sols.
On peut créer, après des AFA, des associations foncières,
ouais.
À ce moment-là, le prix du sol et sa valeur agronomique qui le dicte et non pas les valeurs spéculatives.
Je comprends.
Et du coup, une fois sanctuarisé, la valeur des terres devrait retomber à des prix acceptables pour des activités agricoles.
Je comprends. Oui, on arrive un petit peu au terme de cette émission. Il y a encore beaucoup de choses à dire, je crois, puisque j'ai un peu sous les yeux les documents que vous avez amenés. Il y a beaucoup de choses à dire encore. Peut-être il faudrait essayer de voir s'il y a un truc que vous auriez aimé dire et puis dont on n'a pas parlé, une chose importante. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous vient à l'idée.
L'idée, c'est d'obtenir le maximum de soutien de la population.
Ouais.
Et les élections venant, c'est aussi aux électeurs d'interpeller leurs élus,
futurs élus.
Candidats, on va dire.
Et puis, c'est un enjeu aujourd'hui qui est important. C'est le moment à choisir pour faire basculer
Bien sûr,
les
oui.
mentalités les élus dans leurs convictions, etc.
Et j'aimerais vous poser
On demande de l'aide, de tous nos.
Et j'aimerais bien vous poser une dernière question. Finalement, est-ce que c'est un problème de municipalité, c'est-à-dire est-ce que c'est la municipalité actuelle qui est vraiment qui pousse à la construction, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on constate depuis des années sur Montpellier?
Je crois que la métropole refuse l'idée de PAVN parce que ça, c'est une quelque chose qui est contraignant par rapport à l'urbanisation libre qui se fait jusqu'à maintenant.
Mais est-ce qu'on peut espérer qu'une autre municipalité l'acceptera?
On pense que
oui.
D'autres, on l'espère bien, oui.
Ouais.
D'autres gens qui viendront prendre la suite.
Que l'appel du gain est tellement fort des fois.
Oui. Bon. Voilà un petit peu.
D'accord. Peut-être nous dire un dernier mot sur la façon qu'on a de connaître un petit peu les éléments dont vous nous avez parlé, la façon de vous rejoindre aussi, des éléments qu'on peut consulter sur Internet.
On a une page Facebook.
Alors une page Facebook, c'est
Collectif Ceinture
Verte. Alors moi je dis c'est bien, je pense que c'est mal, mais
voilà.
Bon.
Oui, non, mais voilà.
Je préfère un bon site Internet et une page Facebook, mais après, chacun fait comme il veut.
Le site Internet va être fait prochainement.
Aussi. D'accord, ouais. Ok. Donc sur la page Facebook, on peut avoir accès aux documents que vous avez mis à disposition. Et c'est aussi l'adresse pour vous rejoindre finalement, la page Facebook.
Il y a une adresse qui s'appelle collectif.ceinture.verte.
Oui.
@gmail.com.
@gmail.com. D'accord. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup à tous les deux d'être venus. Peut-être on aura l'occasion de reparler de tout ça dans quelques temps, voir si les choses ont évolué et dans le bon sens. Et à bientôt, donc merci. Au revoir à tous.
Au revoir.
Au revoir.